Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenue dans le 10e épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et vous laisser emporter par l'histoire que vous allez entendre. Un lecteur vit 1000 vies avant de mourir. L'homme qui ne lit pas n'en vit qu'une. L'homme derrière ces mots, c'est George R.R. Martin, l'auteur de la fresque épique Game of Thrones. Car n'y a-t-il pas de meilleur moyen de vivre sa vie qu'en en ayant plusieurs de vies ? Notre histoire d'aujourd'hui ne se passe pas à Westeros, mais à Paris. On est en 2017, je fais déjà des vidéos sur YouTube depuis 5 ans. Je tourne dans des studios où se trouvent les décors de Norman et Cyprien. On rit, on crée, on boit beaucoup de café, mais ça bosse. Même si je joue, je n'ai pas le sentiment d'être comédienne. Pourtant, je joue. Mais selon moi, peut-être pas assez bien pour l'utiliser le mot. Comédienne. Un jour, Vincent a tranché pour moi. Il est en train de créer sa série et cherche la jeune femme qui partagera un couple à l'écran avec lui. Et apparemment, c'était moi. On ne se connaissait pas, et sur le papier, rien ne nous prédestinait à se rencontrer. Il aime Jean-Claude Van Damme et les films d'action. J'aime les comédies romantiques et faire la chenille. Pourtant, un matin de juin, j'accepte de commencer l'aventure folle que deviendra la série en fait sur YouTube et ensuite à la télévision. Vincent écrit, produit, réalise et joue dans la série. Je me demande où il trouve toute cette énergie et cette détermination. Et je me dis qu'il a peut-être fait ça toute sa vie. De couple à l'écran, on est devenus amis. On passe beaucoup de temps ensemble sur les tournages et petit à petit, je déroule la pelote des multiples vies que Vincent a eues dans sa vie. À chaque fois où je pensais tout connaître, il me racontait une nouvelle anecdote. J'étais fascinée et surtout, ça me faisait éclater de rire. Il était donc impensable de ne pas vous en faire un épisode juste pour vous. Tout est vrai. Dans une de ces vies, j'ai rencontré Vincent. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Paylib, le service de remboursement 100% français entre amis. Puisque dans l'histoire d'aujourd'hui, il s'agit d'histoires de vie, d'amour, d'amitié, de réussite et donc accessoirement, d'argent. Vincent, qui es-tu ?
Qui je suis ? Alors moi, tout départ, j'ai grandi pas du tout sur Paris. J'ai grandi dans un petit village de campagne à côté de Grenoble. Et depuis tout petit, je savais ce que je voulais faire. Je voulais devenir acteur, moi. Sauf que quand tu habites là où j'habitais, moi j'habitais sur un lotissement HLM construit sur une ancienne déchetterie.
Déjà, le combo.
Déjà, tu pars avec des bases, tu vois, qui sont pas les mêmes. Donc moi, je gardais ça secret. J'avais mes posters Jean-Claude Van Damme dans ma chambre, et puis je me dis, un jour je serai acteur, c'est sûr et certain, mais je ne savais pas du tout. En plus, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'internet.
T'avais quel âge ?
Franchement, mon plus jeune âge, déjà. Je crois qu'à 6-7 ans,
six mois.
Déjà... Ouais, six mois,
j'ai six mois, j'avais des posters de Jean-Claude.
Mon premier mot, c'était action. C'était action. En gros, j'avais. C'était un peu secret, quoi. J'ai gardé ça longtemps et j'étais là, tu vois. Et moi, je me laissais aller. Je disais, il faut aller à l'école, donc on va aller à l'école. Faut faire des études, donc je vais en faire. Mais je savais pas trop quoi faire. J'avais des facilités à l'école, donc je foutais un peu le minimum, mais ça passait toujours bien.
Tu dirais que tu te situais comment ? T'étais un élève, un bon élève ou un élève un peu moyen ?
Non, moi, franchement, j'avais des bonnes notes, mais j'étais pas le bon élève pour les profs, tu vois.
T'étais pas hyper enjaillé par l'école, quoi.
Ouais, non, moi, j'étais content d'aller à l'école pour être avec mes potes, rigoler, retrouver ma copine quand j'en avais une, tu vois, c'était en mode c'est la MJC, tu vois, moi je suis content, tu vois,
faire des cours un peu de temps en temps.
Mais vu que franchement j'avais les facilités, donc ça a passé toujours, j'avais toujours des bonnes notes, tu vois, à part en espagnol parce que ma prof elle me détestait.
Ça ne parle pas
espagnol.
Gracios.
Gracios, je sais juste dire a mi me gusta tu pelos.
Ah super, voilà. on aime tu aimes mes cheveux,
voilà, c'est ça. Exactement. Et la playa, voilà,
et la plage.
C'est ça. Donc, j'ai fait différentes études et en gros, j'ai fait un peu tous les métiers du monde, tout ce qui passait. J'ai fait un bac commercial.
Et ça a son importance, retenez bien, parce que pour la suite de l'histoire, c'est important.
En fait, c'est vrai qu'à la base, non, à la base, vraiment, je crois que c'était en troisième, j'avais tenté de dire un truc, tu vois, j'avais pas dit direct que je vais être acteur, j'ai dit ouais, j'aimerais bien faire de la pub. Et bah, il y a eu un silence avec la concert de désorientation qui m'a dit non, on va te désorienter. Il m'a dit bah, tu devrais faire du bâtiment. Parce que ma famille est dans le bâtiment, donc pour eux, c'est, ça va pas plus loin que ça. Tu
vois, je n'en peux plus, je suis mort de rire parce que ça commence si mal.
Ah ouais. Du coup, j'ai dit, bah vas-y, allez, putain, je vais aller dans un truc pro, tu vois. Je suis allé à la rentrée dans un. C'est vrai que j'avais oublié ça, je suis allé dans un lycée pro pour faire électrotechnique.
Ah, mais ça, c'est l'électrotechnique, c'est vraiment. Quand tu sors de troisième, tu dis, bah, j'aimerais bien être coiffeur. Et ils disent, ah non, non, électrotechnique.
Exactement,
pour tout le monde.
Exactement,
on a tous eu ça.
C'est ça. Du coup, je suis allé à la rentrée. Je suis allé, c'était un lycée où il y avait que des mecs.
Mais alors que tes notes étaient plutôt bonnes.
Ouais, ouais, c'était bonne. C'est juste que, bah, tu sais, j'avais l'impression vraiment, mais moi, c'est pour ça que j'ai du mal avec les conseillers d'orientation. J'ai l'impression que tu viens d'un milieu social où, je sais pas, tu vois, tes parents, ils ont un taf et je sais pas, on dirait qu'il faut que tu suives cette voie, tu vois, j'avais ces sensations là. Donc du coup je m'étais laissé, vu que je savais pas trop quoi répondre, j'avais dit bon bah de toute façon je vais faire, j'ai fait un jour, je suis rentré chez moi, je dis ah, laisse tomber, en fait je retournerai pas dans ce lycée, je vais retourner dans mon ancien lycée et je vais faire commerce, hein, parce que apparemment tous ceux qui savent pas quoi faire, ils faisaient commerce, tu vois.
Ça claquait un peu à l'oreille, ça faisait cool.
Ouais, c'est ça. En plus, c'était action, communication commerciale, tu vois.
Des forces de vente.
Ouais, après, c'était après, ça. Après, force de vente. Et donc, j'ai eu mon bac sans trop forcer, pour de vrai. C'est drôle, je me rappellerai toujours, la directrice, elle m'a dit, mais tu te rends compte, Vincent, t'as eu ton bac d'un coup. Je dis, bah ouais.
Bah ouais.
Bah ouais, pourquoi, tu vois. En plus, moi, j'avais vraiment une mentalité depuis tout petit. Tout était logique, facile, quoi, tu vois. Je passe mon permis, bon, ouais, je vais l'avoir, tu vois. Ouais, bon, bah le bac, ouais, je vais l'avoir, tu vois.
Ouais, mais personne ne mise un pesetas sur toi, quoi.
Ouais, surtout, parce que, tu sais, j'étais en mode plutôt, tu sais, m'en foutais un peu de tout, tu vois, j'étais dans mon monde. Et je faisais pas mal de petites conneries gentilles, tu vois. Et d'ailleurs, petit aparté, j'ai eu 15 sur 20 en espagnol. Parce que la veille de mon bac, en tout cas la matière espagnole, je sais plus comment ils appellent ça, je suis allé voir un pote à moi qui était espagnol, un ami d'enfance. Je lui dis, vas-y, dis-moi, viens, on parle d'une leçon, je sais pas, apprends-moi une leçon au hasard dans le cahier. Il me l'a appris et en fait, je suis tombé là-dessus. Donc, du coup,
ça s'appelle de la chance.
Exactement. Pareil pour le bac à l'oral d'histoire, c'est incroyable. Après, je vais avancer dans l'histoire, mais c'est des trucs, des fois, c'est incroyable. J'avais regardé la veille un reportage sur la vente de bananes. En Amérique du Sud, parce que je kiffe les documentaires et les bananes, tu vois. Et du coup, j'étais posé chez moi, parce que moi, je regardais que des films, que des documentaires. Déjà, j'étais là-dedans, tu vois, au lieu de réviser. Et je suis allé au bac, et ce jour-là, il m'a interrogé sur un sujet. Je savais pas ce que c'était, je comprenais pas ce qu'il me disait, parce que dans mon lycée, on n'avait pas du tout appris ça. Et je lui dis, non, mais par contre, je peux vous parler des bananes en Amérique du Sud. Et il m'a dit, ah ouais, 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 bah ouais, bah justement, c'est un peu en rapport par à ça. Qu'est-ce que tu peux me dire? Et je lui ai parlé du documentaire et j'ai eu 18 sur 20, je crois.
Attends, donc t'as choisi toi-même le sujet en plus, t'as eu une bonne note.
Ouais, de fou. C'était incroyable.
N'hésitez pas à demander votre propre sujet si vous passez le bac bientôt. Si,
il m'a parlé vraiment d'un sujet. Et je lui ai dit, mais là, on n'a pas appris, moi. Je lui ai dit, par contre, moi, j'adore l'histoire, en tout cas les documentaires. Et hier, j'ai regardé sur l'import-export de bananes depuis l'Amérique du Sud. Et m'a dit, ah ouais, bah, c'est intéressant ça, qu'est-ce que tu peux me dire? Et du coup, c'est passé de ouf. Parce qu'on a parlé comme on parle toi et moi, tu vois. Et moi, j'ai joué ces petits trucs dans la vie, tu vois.
Moi aussi, je te mets 18 dans ce podcast.
Ouais, c'est ça. Et du coup, bref, après ça, j'ai fait BTS Force de Vente, parce que je ne savais pas quoi faire.
Mais ça claque au vent, hein. Faut faire BTS Force de Vente.
Ouais, Force de Vente. J'ai dit, il y a un mot force dedans, il y aura un truc trop bien dedans.
Il y a force et vente. Bah, super.
J'y suis allé et c'était sur 2 ans, je n'ai pas fini, ça m'a saoulé. Je me rappelle pendant même le. Je crois qu'il y avait un examen blanc ou un truc comme ça. J'ai fait semblant d'être malade, de vomir. J'ai dit, vas-y, je me suis barré. J'ai des potes qui sont venus me chercher, je suis rentré chez moi. Ça me saoulait et j'ai arrêté là. Et j'ai dit, non, en fait, tu sais quoi, je fais du sport tous les jours. Je vais devenir coach sportif.
Ah oui, en fait, ça vrille très, très vite dans ton cerveau. Parce que quand tu vois que tu n'aimes pas ce que tu fais, tu changes.
Ça. En fait ouais, j'ai toujours fait ça. En fait, j'ai toujours fait ça, sauf que j'ai... Après, vous le comprendrez plus tard dans l'histoire. Mais en gros, j'ai toujours fait... Ce que je voulais sur le moment, sauf le truc qui me tenait le plus à cœur, c'est devenir comédien. Et je pense qu'avec le recul, c'est parce que j'avais peur de pas réussir, tu vois, et que mon rêve se brise. Et là, j'aurais été pas bien. Et au final, j'étais heureux dans ma vie, mais pas heureux au fond de moi, tu vois.
À 100%.
Ouais, donc dès qu'il y avait un truc qui me saoulait, j'arrêtais. Puis, en fait, pour moi, rien n'était impossible, sauf ce truc de devenir comédien. Donc, je faisais ce que je voulais. Et c'est vrai que j'étais plutôt, moi, très sportif depuis tout le temps. Et je m'étais dit, bah vas-y, c'est cool, tu vois, je vais être payé pour faire du sport, vu que j'en fais tous les jours. Donc j'ai passé mon brevet d'éducateur sportif, métier de la forme.
Du coup, t'as quel âge à peu près à ce moment-là?
J'ai 20 ans.
Ouais,
j'ai 20 ans, je crois.
J'allais dire 19-20 ans.
Ouais, c'est ça, je crois, j'ai 19-20 ans. Donc je fais ça, en plus je le fais en accéléré, je le fais en un an.
Je le fais en 2 mois.
Ouais, non, c'est vrai, je le fais en un an au Krebs de Voiron. Donc c'est un gros Krebs en tout cas pour le fitness et tout ça. Après, j'ai mon diplôme et du coup, je taffe un peu et je vois qu'en fait, ça me prend la tête d'aller dans les associations, faire de la Zumba, des vieilles et tout. Ça me prend la tête. En plus, ça me drague en fin de cours avec des collants, des grandes chaussettes. Je dis, putain, c'est quand même... Putain, c'est pas top, tu vois.
C'est pas ce que t'avais en tête.
Ouais. Du coup, je me dis, vas-y, je sais, je vais me faire un peu d'argent et je vais devenir peintre en bâtiment.
Ah ouais, ça switch très très vite, hein, parce qu'en fait c'est pas tant que tu peux pas faire ce que tu veux faire, c'est juste que ça te plaît plus.
Ouais, c'est ça, ça me plaît plus très vite. Ouais, j'étais un éternel insatisfait, parce qu'au final maintenant je le sais pourquoi, parce que je faisais pas ce que je voulais vraiment. Et ça a beaucoup d'importance, ça vous évitera de perdre du temps. Si vraiment vous avez un truc en tête, faites-le tout de suite, ne perdez pas de temps et n'écoutez personne.
Donc là tu finis.
Donc là en fait, non, je continue à donner des cours le soir, la journée je travaille en bâtiment, quoi, tu vois. J'étais pas peintre, mais vu que j'avais un côté artistique, tu vois, j'apprends très très vite. Du coup, je deviens chef de chantier pour une boîte. Mais pareil, ça me gave. Moi, je suis pas un mec, je suis pas un employé. Ça me saoule, tu vois, d'avoir des horaires, des trucs. Donc, du coup, j'arrête et je me mets à mon compte. J'arrête parce que je décide de. Oh, c'est ça, j'en ai marre du bâtiment. Je bosse comme ça. J'arrête et je dis, putain, j'en ai marre. Faut que je change de vie. Et je me dis, putain, j'ai un plan de ouf. J'ai un plan de ouf. C'est que. Je veux devenir en fait acteur de films d'action, vraiment. Et j'ai toujours ça en tête et je me dis, il faut vraiment que je change ma vie. Et j'avais regardé Umbak. Tu te rappelles du film Umbak?
Oui.
Et je vois ce
très,
mec.
Très bien.
Qui, voilà,
et, pas mal à l'affiche.
Tu vois. Et moi, j'apprends que ce mec, il s'est entraîné pendant 4 ans avant de faire son film à fond. Et il avait un vrai truc d'action qu'on n'avait pas vu ailleurs. En tout cas, moi, je kiffais. Et je me suis dit, mais en fait, ouais. Et je rencontre une meuf quelques années auparavant, au hasard. Je ne sais plus du tout comment je l'ai rencontrée. Et elle travaille avec les moines de Shaolin. Elle fait de la médecine chinoise et elle part là-bas et c'est une des seules à l'époque, parce que c'est vieux ça, c'est une des seules à l'époque qui arrive à rentrer chez les moines, à dormir chez eux, à faire ça. Et elle me montre c'était une cassette VHS à l'époque. Elle me dit, c'est secret, je te montre comment ils vivent, comment ils font, etc. Et je vois ça, je me dis, mais attends, mais c'est ce qu'il faut que je fasse. Je vais partir dans le temple, m'entraîner au kung-fu et quand je reviens... Je vais voir Luc Besson. Mais vraiment, c'était ça mon plan.
Comme Kung Fu Panda.
Ouais, c'est ça, exactement. Je vais voir Luc Besson. Je vais me trouver un moyen et lui dire. Et je vais lui faire des trucs de dingue devant lui, tu vois, un peu comme Jean-Claude Van Damme, okay. Il avait fait.
T'étais déterminé.
Déterminé. Du coup, j'étais prêt pour partir, tu vois. Je dis, vas-y, je pars et tout. Et là, bon, bah, j'ai eu un problème familial. Mon père est tombé malade. Il a une leucémie.
Donc là, t'es parti déjà.
Non, je suis pas parti, justement. J'avais tout prévu pour partir. J'avais voilà, les contacts et tout. Et du coup, là, bah, je décide de reporter le truc. Je dis, bah non, c'est pas possible. Mon père, il a une leucémie, donc forcément, plus important que le reste. Et là, je reprends sa société d'électricité. Et entre-temps, je passe donc, vu qu'il y avait du business à faire aussi à l'époque en clim, je passe en même temps un diplôme de climatiseur.
Non, mais déjà, vous vous rendez compte à quel point on est si loin déjà dans la carrière, alors qu'il a 22 ans.
Là, j'ai 23 ans, ouais, je crois. Ouais, c'est ça, 23. 23, 24, ouais.
Donc, et, tu restes à Grenoble à cette période où c'est... Ou t'as déjà bougé?
Non, j'ai pas encore bougé. C'est juste après que je bouge.
Okay.
Donc du coup, je fais ça. Et du coup, bah, ça me plaît pas, mais je reste, tu vois. Donc je reste encore, je crois, un an. Donc j'ai un diplôme de climatiseur. J'ouvre même ma boîte de clim associée avec celle de mon père. Et après, mon père, ça va, bah, c'est un warrior, donc il s'en remet très vite. Et au bout d'un an, je dis, vas-y, faut que je bouge et je me casse.
Tu voulais pas reprendre de partir dans un temple de moines Shaolin? Tu voulais plus garder?
Non, ouais, non, du coup, oui, ouais, c'est ça. Donc du coup, là, j'ai un autre plan qui vient en tête. Je me dis, attends. Je dis, en gros, bon, bah, si j'ai pas pu partir là-bas, c'est que peut-être pas l'univers m'a peut-être dit non, vas-y pas, c'est pas forcément le meilleur des plans, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais le crâne rasé en pyjama, tu vois. On sait pas, tu vois. Et du coup, je dis non, faut que je fasse un vrai truc d'acteur. Donc du coup, je vais partir à New York et je vais faire l'acteur studio.
Déjà, c'est fat comme plan. Faut ouais. Vraiment se... Voilà.
C'est ça. Et je me rappelle, même si c'est vrai, tu vois, il y a un truc qui me revient, c'est qu'à l'époque, je fais une formation d'anglais, parce que je parle pas du tout anglais. Donc je fais une formation d'anglais, et le mec, il me dit, bah, tu devrais déjà partir à Londres, parce qu'il y a du vrai truc à faire à Londres. Moi, et je dis, non, Londres...
Londres, c'est nul.
Ouais, c'est ça, je dis, c'est nul, alors qu'en fait...
Il n'y a aucun acteur qui vient de Londres.
Ouais, alors qu'en vrai, c'est génial, j'y suis allé il y a 2 ans. c'est ouf.
Tu regrettes maintenant.
Ouais, de ouf. Mais je dis non, moi c'est New York, je suis un Américain dans ma tête, je veux y aller et j'y vais. Et là-bas, je pars avec un pote à moi qui connaissait un autre pote qui habitait à Harlem, qui était un mec qui est à l'époque sans papier, mais qui était là-bas depuis 10 ans. Donc du coup, je suis allé habiter...
C'est rassurant.
Ouais, mais un mec, vraiment un mec en or, tu vois. Du coup, je vais là-bas, donc je loge, j'habite à Harlem, dans la 116e.
En te disant que tu vas y vivre indéfiniment, tu sais pas...
Non, je savais que j'allais faire des allers-retours, ouais, okay. Ouais, totalement. Déjà, j'y suis allé une première fois pour tâter le terrain et voir, tu vois. Donc New York, pour moi, c'était que des images de films dans ma tête, tu vois. Donc je vais là-bas et je parle à des gens, j'essaye de me débrouiller. À un moment donné, justement, je tombe sur une fille qui devait faire médecin, une vendeuse. J'étais en train d'acheter des sapes. Et elle me dit, tu fais quoi là? Je dis, bah moi, je vais faire l'acteur studio pour devenir acteur et tout. C'était à Brooklyn, je me rappelle. Et elle me dit, elle me sort un journal, elle me dit, bah tiens, regarde, j'étais en train de lire et tout. Regarde, il y a le truc et tout ça, tu vois, l'acteur studio. Et en gros, pour faire bref, donc j'ai fait plusieurs allers-retours. À New York, et jusqu'au moment donné où je me dis, putain, mais ça coûte cher l'acteur studio, ça coûte très cher à New York. Moi, je viens de la campagne où c'est moins cher à la base, quand même, tu vois.
Moins cher l'acteur studio de Grenoble.
Exactement, tu vois. Et je me dis, non, il faut que je fasse un business. Et en fait, je parle avec un mec qui tient un restaurant et je vois que ça marche super bien. À Harlem, en bas, il y a des Français qui tiennent une boulangerie. Je dis, putain, ça marche bien. Et un jour, je me promène et je vois un Mexicain avec une petite roulotte qui vend des crêpes. Et je vois qu'il y a la queue de fou et ses crêpes, elles sont éclatées, tu vois, et pourtant ça marche. Et je regarde mon pote, je dis, hey, mais je sais ce que je vais faire. Je vais monter une crêperie, c'est sûr et certain. Et en plus, moi, d'où je viens, j'avais un concept de fou, c'était faire une crêperie. Et à côté, je monte une petite cave à vin où je vends que de la chartreuse. Parce que là d'où je viens, c'est où moi, je viens de Voiron. Et la chartreuse, pour ceux qui connaissent, ça vient de là où je suis né, tu vois. Et j'ai dit, vas-y, en plus, j'ai des potes qui travaillent là-bas, je peux faire de l'import-export et tout, je vais faire un concept, j'appelle ma mère, je dis, vas-y, je lui monte la tête pour qu'elle vienne, je lui dis, toi, t'es une bonne cuisinière, viens, on monte une crêperie.
Viens faire des crêpes.
Ouais, elle me dit, mais j'en ai rien à foutre, laisse-moi tranquille. et au final, j'arrive à la motiver, elle me dit, vas-y, si tu trouves un truc, on y va, tu vois. Du coup, je vais à la chambre des commerces à New York, avec mon pote qui traduit, parce que c'est assez complexe.
Tu parles toujours pas anglais?
Là?
À ce moment-là?
Si, je me débrouille, franchement, je me débrouille, mais c'est technique, donc je comprends pas tout, tu vois.
I want to make a crêperie.
Do you want to eat a crêpe? Yes, I make the crêpe.
Ça passe.
Ça passe tout droit jusqu'au moment donné où en fait ils me disent, ok, mais par contre t'as pas la green card.
La green card.
Et du coup il me dit, pour t'installer ici, pour devenir entrepreneur à l'époque, et il me demandait $150,000.
Ah, c'est hyper cher.
Ouais, il m'a dit faut que t'aies $150,000 sur le compte, parce qu'ils veulent pas en fait des clodos qui viennent dans leur pays et qui disent vas-y allez barre-toi. Tu vois,
juste pour monter ton truc, parce qu'en plus ça coûte de l'argent, j'imagine, déjà de monter son,
c'est ça, il fallait que j'ai 150,000 balles
quoi qu'il arrive
sur moi. Je dis, ben je les ai pas, laisse tomber.
Je les ai pas là sur moi, je les ai pas.
J'ai dit, je retourne à Grenoble les chercher peut-être. Et du coup je suis rentré, j'étais au bout du slip. J'en pouvais plus, j'étais dégoûté, je me rappelle, je rentre, je suis dégoûté, je dis, putain, c'est pas possible, je dis, je peux pas faire ce métier en fait, c'est trop dur, tu vois, et tout
ce que je veux faire, la vie m'en empêche.
Voilà. Et qu'est-ce que je fais quand je rentre? Ouais, je monte justement une boîte de décorateur d'intérieur, non, de courtier en travaux. Ouais. Ça s'appelait, je crois que ça, tu la trouves encore sur internet, ça s'appelait SV Design.
SV Design.
Et j'avais un autre truc de courtier en travaux, je sais plus comment ça s'appelait. Je me rappelle plus.
Tu aimes les canapés? Tu aimes les buffets en bois?
C'est exactement ça. Du coup, je prends le local de mon père, je lui redécore tout, je fais un truc de fou et tout. Et je bosse, ouais, ça marche et tout ça, mais pareil, toujours pas heureux et tout ça.
Mais c'est quand même une sacrée expertise, parce que t'avais quand même ton diplôme en clim, plus le truc d'électricité,
ouais,
plus la décoration d'intérieur. En gros, tu pouvais faire une maison à n'importe qui.
Ah ouais, enfin, mais totalement, de ouf.
Les gens devaient être trop contents hier, et ils voulaient repartir juste avec un petit guéridon. Et
ouais, bah du coup, en plus, à la fin, c'est ça ce que je faisais. J'étais maître d'œuvre, je prenais tous les chantiers. Et puis je faisais bosser des artisans, tout ça. Je gérais comme un architecte, quoi, on va dire. Mais toujours pas...
Toujours pas ça.
Ouais, c'est ça. Au bout d'un an, ça m'a gonflé. Et je suis rentré chez moi un jour, j'ai dit à ma copine, viens, on se barre à Tahiti, en fait.
Comme ça?
Ouais, elle me dit pourquoi. Je dis, bah vas-y, quitte à pas faire ce que je veux, en tout cas moi, j'ai dit, bah autant être en galère au soleil, tu vois. Et moi, à l'époque, j'avais rencontré, pendant mes cours de sport, j'avais rencontré un pote à moi qui était parti à Tahiti. Et il m'avait dit, ouais, ça déchire et tout ça. Puis moi, j'avais toujours rêvé d'y aller. Il m'avait dit, putain, j'ai un pote à moi, il fait prof de jet ski là-bas, la vie, elle est ouf et tout. Ça change, c'est pas comme chez nous, tu vois. Et elle me dit, bah, vas-y, tu vois. Et du coup, on vend tout.
Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble ? Parce qu'il faut quand même avoir bien confiance en ton couple pour dire, allez, ok, on y va.
Ça faisait 2 ans, ouais, je crois. Trois ans. Ouais, 3 ans parce que... Ouais, si, ça faisait 3 ans parce que je lui ai dit... bah vas-y, bah dans ce cas-là, si tu veux, on se marie. J'ai dit, on se marie dans 2 mois et on se casse dans 3 mois. Elle me dit, ok, c'est bon.
Allez, ça roule.
Du coup, on a fait ça.
T'as quand même de la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui est ok et qui te suit dans tes projets, quoi.
Ouais, de ouf. Mais je pense que j'aurais été malheureux. Peut-être que je serais parti aussi tout seul. Je sais pas, à un moment donné, je me serais barré. Ouais, je pense que moi, je devais être un aventurier, tu vois.
C'est aventurier sûr. De la vie.
Exactement. On part à Tahiti en 2008 avec 4 grosses valises. On n'a rien prévu. On a réservé 2 nuits chez l'habitant. Donc, on arrive et on se dit, on fait quoi, tu vois? Je dis, vas-y, on va créer un business, t'inquiète, normal, tu vois. Et du coup, on essaye de trouver des business qui marchent. Mais c'est assez compliqué. En plus, quand on arrive à Tahiti à ce moment-là, il y a des problèmes politiques. Et ils n'aiment pas trop les métropolitains au niveau taf, tout ça. Clairement, déjà, ils nous disent, bah, tiens, les CDI, ça, c'est pas pour vous. Et bref, et du coup, moi, je faisais beaucoup de sport, toujours pareil. Donc, un jour, je suis à une salle de sport et je rencontre un mec qui s'appelait Jean-Louis, je me rappelle.
Jean-Louis.
Et on sympathise, mais ouais, c'était un mec de 50 ans, tu vois. Et je sais pas, il m'aime bien, tu sais, il me dit, tu veux faire quoi? Je dis, ouais, moi, je kiffe les perles et tout, j'aimerais bien vendre des perles.
Parce qu'il y a plein de perles à Tahiti, pour ceux qui se demandent.
Ouais, voilà ça. Et moi, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours attiré, j'adore les perles de Tahiti. Et il me dit, moi, je peux t'aider si tu veux et tout, je suis dans la perle. Je dis, ouais. Et en fait, je m'aperçois que c'est le bras droit du plus gros perlier au monde, qui s'appelle Robert Wan, c'est son bras droit, son designer. Et il me dit, bah, si tu veux, au bout de quelques jours, il me dit, bah, prends mon numéro, moi je prends le tien, et puis je t'appellerai un jour, je te ferai. Parce que c'est très compliqué de travailler dans les perles, c'est très très compliqué.
C'est un cercle fermé.
Ouais, très fermé, tu es obligé d'avoir des diplômes, des cartes.
Diplômes de perles.
Ouais, et du coup, j'appelle ma sœur qui est restée à Grenoble, je dis, vas-y, renseigne-toi pour faire de l'import-export, tout ça. Donc elle me fait un dossier, des trucs avec les préfectures de Grenoble, enfin c'est hyper complexe. Donc elle me fait mon truc au carré, et je m'étais dit, bah, à mon avis, il va jamais m'appeler, tu vois. Et en fait, il me rappelle 2 jours après, il me dit, bah vas-y, on a rendez-vous avec le consul hollandais qui vend et importe des perles, viens dans le bureau, tu vois. Et du coup, j'arrive en claquette, short, débardeur dans le bureau d'un consul hollandais. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. En tout cas, ils m'ont amené des perles. Je n'ai jamais vu autant de perles de ma vie. Ils m'ont dit, bah vas-y, choisis celle que tu veux, machin, etc. Et il m'a un peu expliqué, formé aux perles, parce que tu as différentes qualités et tout ça.
Donc lui, il a un peu misé sur toi quand même, parce que...
En fait, il m'aimait bien, il m'a donné ma chance. Mais en mode, après, tu fais ton business, tu te débrouilles, mais en tout cas... Et à côté de ça, j'ai sympathisé avec une petite meuf qui avait un magasin en Indé qui fabriquait des bijoux, tu vois. On avait grave sympathisé et je lui avais dit, vas-y, moi, si j'achète des perles, tu me fabriques mes bijoux. Donc on avait fait un business comme ça. Et puis, ça devenait de plus en plus compliqué. Au bout de ça, c'était peut-être de 6 mois, un truc comme ça, 8 mois. Ça devenait compliqué vraiment pour bosser, tout ça. Il y avait beaucoup de manifestations, de trucs comme ça. En fait, la vie, elle était de plus en plus compliquée pour nous, vraiment. On était moins en moins bien reçus. On a dit, vas-y, viens, on bouge et on se casse en Nouvelle-Calédonie.
Donc là, ça faisait combien de temps que vous étiez à Tahiti ?
6 mois, 8 mois, je crois. Okay. Ça, à peu près 6 mois, peut-être. Ouais. Et parce que je connaissais quelqu'un qui était en Nouvelle-Calédonie. D'une connaissance, des gens de Voiron qui étaient en Nouvelle-Calédonie, et tout le monde, même les Tahitiens qui revenaient, disaient, putain, Nouvelle-Calédonie, bonne ambiance, c'est cool et tout ça. Et du coup, on est parti en Nouvelle-Calédonie, on a tout vendu. Non, j'ai laissé, j'ai tout vendu sauf ma voiture. Je l'ai donné à la Miss Tahiti, Miss Tahiti de l'époque, ouais, je l'ai donné à elle et son mec. Et enfin, je lui ai dit, tu la gardes et on reviendra sûrement pour la vendre ou on verra, tu vois. Et on est parti.
205.
Ouais, non, c'était une Fiat Punto.
Voilà.
Et petite histoire, elle a fait n'importe quoi avec. Et 10 ans plus tard, j'ai dû payer des amendes dans tous les sens.
Ne prêtez jamais votre voiture à une
Ouais, non, jamais. Jamais, jamais. Et on est arrivé en Nouvelle-Calédonie. C'est là où j'ai pris le virage, un bon virage dans ma vie. On est arrivé là-bas. C'était super cool. Franchement, on a habité dans une auberge de jeunesse avec plein de gens, tout ça, pendant un bon moment, pendant au moins 3-4 mois. Après, on a pris un appartement. Et pareil, on dit, on va faire quoi? Pareil, CDI, impossible. clairement, c'était pas pour nous, parce qu'il n'y a pas assez de boulot, donc ils privilégient les locaux. Hein. Et je dis, mais attends, mais, parce que moi, ma copine, elle était, quoi, du coup, ma femme, au final, elle était secrétaire médicale. Et moi, un jour, je vais au médecin et je vois qu'il faut attendre grave longtemps, tu vois. Et je vois que de partout, t'attends, quoi, les premiers arrivés, premiers servis. Et un jour, j'attends une heure, je dis, c'est pas possible. Et du coup, je dis, vas-y, viens, on va monter un pôle de secrétaire médicale à Nouméa. Et je me renseigne.
Mais c'est génial parce que tout inspire une société.
Oui, c'est ça. Et du coup, je me dis, mais attends, je dis, mais il y a un truc à faire. Et je vais voir mon banquier à l'époque et je sympathise avec lui, tu vois, vraiment. Et lui, il est dans le business, dans des trucs et tout. Et je dis, on est d'accord, il n'y a pas de secrétaire médical ici. Il me dit, non, ça n'existe pas. Ils ne sont pas du tout éduqués à ça, en tout cas, cette façon de voir les rendez-vous, les trucs comme ça. Je dis, vas-y, on va faire ça. Et je suis allé démarcher tous les médecins de Lille, grave sympathisé avec eux, c'est devenu mes potes et tout. Et je leur ai fait croire que j'avais une grosse société de secrétaire médical, alors qu'on avait un appartement, on n'avait pas de meubles.
Les brouf.
Ouais, vous verrez, de toute façon, si vous regardez la vidéo, vous verrez, j'ai des photos où tu me vois, je suis assis par terre. On n'avait pas de lit, je dormais sur le carrelage. Le carrelage avec un duvet, c'est pour ça que j'ai la tête plate derrière maintenant. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf. Et on avait un téléphone au milieu et on répondait pour les médecins, tout ça. En fait, c'était un peu le Doctolib de l'époque, tu vois.
Bah ouais, surtout sur une île comme ça, ça doit manquer.
Ouais, exactement, ouais, franchement. Et on s'était dit, ouais, après on peut le faire avec plein de trucs et tout, tu vois. Et il y a la crise de 2008, à l'époque, 2008-2009, qui arrive un peu là-bas. Donc les gens paniquent, les médecins commencent à dire, ouais, non, peut-être on va pas faire ça parce que ça, nous on leur facturait, tu vois. Et là, à ce moment-là, il y a un casting sur l'île pour la série Foudre.
Alors ça, c'est le tournant que je commence à préférer dans cette histoire.
Ouais, tu couperas tout avant un peu plus rapide.
Non, je coupe rien du tout.
Et du coup...
Foudre, pour ceux qui n'ont pas souvenir, c'était une série qui passait sur...
Une série d'ado, ouais. C'est France 2 ou France 3, ouais.
France Télé, ouais, je crois.
C'était un gros truc, mais c'était même cool, hein, franchement.
Bah, c'était un peu comédie romantique, non? C'était une série.
Ouais, c'était un peu mystique, même. Okay. Ça partait un peu, ouais, c'est ça. Il y avait une histoire d'amour entre des jeunes. Après, ils tournaient à Paris. Ouais, ils jouaient à Paris, puis après, ils sont partis là-bas, parce que dans l'histoire... Il y en avait un qui cherchait, je ne sais plus qui, sa mère, son père, j'en sais rien, tu vois. Et ils sont tous partis là-bas et après le tournage s'est fait là-bas.
Donc toi, tu arrives au moment où ça tourne là-bas.
Où ça tourne là-bas. Il y a déjà deux saisons qui ont été faites. Et là, il y a un casting pour la saison 3. La fille du casting, elle me dit, donc tu as déjà joué, ça te dirait de jouer et tout ça. Je dis, ouais, t'inquiète, moi je suis comédien, je viens de Paris, j'ai fait plein de trucs de théâtre à Lyon, à Grenoble.
New York.
Ouais, je dis, je suis grave. Et je crois que je lui dis, en plus, je viens de l'acteur studio. Elle me dit, ouais, cool et tout.
Ah oui, donc mytho en plus.
Mytho total. Total. Et en plus, j'étais dans une période de ma vie où vraiment, je disais à ma femme, je lui disais, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie parce que les gens te connaissent pas. Donc, et j'avais ce côté un peu reconcours, mais bienveillant, tu vois. Je voulais pas, jamais je voulais arnaquer les gens. Je voulais arnaquer les gens pour aller dans le bon sens. Je sais pas comment dire. Ouais, pour du bien. C'était bienveillant. Parce qu'au final, ouais, c'est ça, c'est pas pour les arnaquer, exactement. Au final, vraiment, on répondait, on donnait des rendez-vous aux médecins, tu vois, on faisait rien de mal. Et du coup, elle me dit, bah viens au casting, c'est demain. Et j'y suis allé, j'ai descendu deux bières, deux Manta.
Cul sec.
Et j'y vais, elle m'a dit, bon, bah nous, en fait, en gros, Foudre, comment ça se passait? T'avais pas de scénario, t'avais plutôt une sorte de fil rouge. Et après, il y avait beaucoup d'impro, tu vois. Elle me dit, donc on va faire pas mal d'impro. Et on a fait une heure d'impro. Et moi, j'ai improvisé en mode, mais vraiment, bah vas-y, j'y vais, quoi, tu vois. Et à la fin, elle me dit, ah ouais, franchement, ça se voit que t'as de la bouteille.
Ça se voit que t'as fait l'acteur studio.
Elle me dit, vraiment, t'as un truc naturel et tout. Elle me dit, bah vas-y, j'ai 5 rôles à te proposer. Donc choisis celui que tu veux.
Dans les 5 rôles, il y a un animal et une femme. Qu'est-ce que tu préfères?
Et un sapin. Et en fait, il y avait des rôles plutôt cool à jouer. Et moi, il y a un rôle où à un moment donné, il y a de l'action, je me bats avec l'acteur principal, tout ça. Et bah, comme un con, en tout cas, je prends celui-là, tu vois. Avec le recul, j'aurais dû prendre un autre, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je prends celui-là et je joue dans la série. Je joue un épisode et ça se passe super bien. Je parle bien avec le producteur, le réal et l'acteur principal. Il me dit, ouais, t'as un vrai truc et tout. Franchement, t'es assez à l'aise et tout. Si un jour tu rentres à Paris, tu devrais faire Pygmalion. C'est un. Pour apprendre à vraiment prendre des cours.
C'est comme le cours Florent.
Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, il me dit ça, je dis, ok. Et après, il me dit, ouais, peut-être qu'on te rappellera ton personnage. Au final, il ne devait pas venir, mais peut-être qu'on te rappellera pour jouer dans la saison, je crois que c'était 4, du coup.
Il peut revivre.
Et je lui dis, ouais, mais c'est sûr ou pas? Il me dit, on ne sait pas, on va l'écrire, on verra de ça.
T'étais mort et tout ou pas?
Non, moi, je n'étais pas mort.
Ils ne t'ont pas fait mourir?
Non, ils m'ont
ça
pas
va,
fait...
ils n'ont pas eu.
Ils ne m'ont pas fait mourir. Moi, j'étais de passage. Et il m'avait dit, ouais, mais peut-être qu'on fera un truc avec toi et tout. Et je dis, ouais, mais si c'est pas sûr, moi, à un an ici, c'est chaud, tu vois, plus de taf, on n'avait plus d'oseille, plus rien. Du coup, je rentre Et je dis, vas-y, j'essaie. J'avais un rendez-vous pour vendre des fenêtres, pour être vendeur de fenêtres. Donc, je dis, vas-y, je vais à l'entretien. Si je suis pris, je suis pris. Si je ne suis pas pris, on rentre et je monte à Paris faire Pygmalion.
Mais pousse. Attends. Pause. Qu'est-ce que tu faisais de toutes tes autres sociétés à chaque fois? Est-ce que tu les fermais et tu partais en mode voilà, on recommence quelque chose de nouveau.
C'est ça,
à chaque fois, celle de ton père. Ou...
Ouais, c'est ça.
Donc là, tu rentres et tu te dis je repars.
Et du coup, on part, on rentre, on arrive là-bas, on est en décalage total avec tout le monde. Tu vois, parce que t'as pas la même vie, franchement. Et moi, je suis pas bien, Et je dis vas-y, je vais tenter de faire Studio Pygmalion. Donc tu vas là-bas, tu vois, tu restes une semaine, t'as des tests pour voir s'ils te prennent ou pas. Donc moi, j'y vais, je suis pris. Et après, quand je redescends, je dis vas-y. Je suis pris, donc du coup j'ai commencé à faire mes allers-retours à Paris.
Et t'avais jamais vécu à Paris avant?
Non, en plus Paris, j'avais une mauvaise image Paris, je me sentais pas bien du tout, tu vois, vraiment j'y allais en mode, j'y vais pour les cours mais je suis pas bien, tu vois.
C'est pas ta ville quoi.
Non, c'est ça, et du coup je logeais dans un hôtel mais éclaté à Montrouge, tout petit, ça faisait 3 mètres carrés. C'était infernal. Et je gérais mes chantiers, parce que pour faire de l'argent, je faisais des chantiers. Donc, je gérais aussi des chantiers. Je m'étais remis auto-entrepreneur pour faire des trucs.
Et les chantiers, ils étaient sur Grenoble?
Ouais, sur Grenoble.
Donc, tu faisais tout le temps l'aller-retour?
Ouais, tout le temps l'aller-retour. Okay. Et j'ai créé une association de production. Rapidement, en fait, direct. J'ai dit, vas-y, je sais que les rôles, ça va être compliqué pour attendre. Donc, du coup, on va faire des courts-métrages, tu vois. Et du coup, on a créé avec un pote une association de production qui s'appelait Samouraï Associés. Et toujours dans le kung-fu,
dans l'action.
Et on essayait de récupérer un peu de l'oseille à des boîtes pour leur faire la pub. On disait on va faire des courts-métrages, on va les inscrire à Cannes, on va mettre vos noms dessus, etc. On faisait déjà un peu du brand, tu vois ce que je veux dire.
C'est génial, du brand content de l'époque.
De l'époque, c'est ça, exactement. Et je me rappelle, on avait réussi à obtenir 5000 euros et on avait fait un premier court-métrage que j'avais produit moi qui s'appelait Ken Flush. Ne cherchez pas, c'est... C'est horrible.
Il est en caché.
Ah ouais, c'était le pire court-métrage qu'on a fait.
C'était sur le poker ?
C'était sur le poker, ouais, c'est ça. Enfin, sur des gangsters à poker. Les genres de gangsters où, tu vois, j'ai une chemise à manches courtes, une cravate blanche, un chapeau, tu vois, le genre de gangster.
Je vais le googler tout de suite.
C'était catastrophique. Et voilà, petit à petit. Et là, j'ai commencé à avoir pas mal de petits rôles, vu que je faisais pas mal de sport, d'action, de cascade. Et puis, on me disait, tu fais de la cascade ? Je dis, ouais, je fais de la cascade. Donc,
bien sûr.
Tu vois, voilà. Et j'ai commencé à avoir pas mal de rôles. De petits rôles pour des trucs comme Braco, No Limit, c'était des trucs un peu d'action, tout ça, où jouait beaucoup de mecs du GIGN, des policiers, des gangsters.
Mais c'est arrivé quand même assez vite, parce que ouais. Braco, c'est quand même une sacrée série qui a cartonné.
Ouais.
Donc ça, c'était parce que tu étais déjà dans le circuit des castings, ou c'est venu parce que tu rencontrais des gens?
Non, c'est parce qu'en fait, moi, quand je suis à Pygmalion, je monte mon association, et à côté, en fait, je scrute les castings, et je m'inscris partout, et petit à petit, il y avait des petits rôles, et puis j'en passe, et ça marche, et tu vois.
Donc tu passes énormément de castings.
Ouais, je fais des petits... Enfin, en tout cas, je postule à beaucoup de castings, j'en passe pas beaucoup. Et quand j'en passe, souvent, ça match par rapport à mon physique. Où à l'époque, vraiment, c'était beaucoup de sport de combat, beaucoup de muscu, donc j'étais très physique, tu vois. Et peut-être qu'il n'y en avait pas autant que ça d'acteurs. Et je jouais quand même un minimum, tu vois. Donc du coup ouais, j'avais plein de trucs comme ça. Et jusqu'au moment où j'arrive en 2016... Et je dis, ouais, en fait, ça me saoule d'être toujours tu sais, faire valoir des gros acteurs pour t'ouvrir une porte, dire salut, il y a Jean-Louis qui t'attend au commissariat, tu vois. Moi, j'en avais marre de ça. Et ah oui, à un moment donné, je suis chez moi, je me dis, putain, j'ai rien à faire, tout ça. Et là, j'habite à Paris et je vois un concours de réalisation à l'iPhone, ça s'appelait Mobile Film Festival.
Et qui existe toujours, hein, d'ailleurs.
Ouais, qui existe toujours, c'est cool, hein. Franchement, je vous conseille de le faire si vous avez envie de faire de genre de concours, c'est très cool à faire. Et je vois qu'il y avait 6 mois pour le faire et que je vois le concours, il s'arrête demain en fait, quoi, 24 heures plus tard, non, 48 heures plus tard. Et je dis, putain, c'est con, j'aurais trouvé une idée, je l'aurais fait, tu vois. Et je réfléchis, là, d'un coup, j'ai une idée. En plus, c'était sur le réchauffement climatique, tu vois, un truc qui me faisait kiffer.
Et qui me faisait grave.
Non, mais je veux dire, ça m'inspirait, tu vois ce que je veux dire. Pas le réchauffement lui-même. Et je me dis, non, le sujet, il est intéressant, mais j'ai pas d'idée. Et d'un coup, j'ai une idée. Et je dis, putain, faut que je le fasse, mais putain, je vais appeler qui? Du coup, j'appelle des potes de Grenoble, j'appelle ma sœur, je dis, vas-y, j'ai besoin de trucs de l'hôpital et tout ça, parce que je bosse à l'hôpital. Je dis, je descends là, dans 2 heures, on va tourner un truc. Elle me dit, ok. Je dis, rassemble du monde. Donc, du coup, je descends à Grenoble. Je réalise un petit court-métrage, il fallait que ça dure 1 minute. Je fais un truc, je le monte jusqu'à 5 heures du matin, je le poste. Et en fait, je suis sélectionné, du coup, c'est plutôt cool. Et j'arrive dans les finalistes et je rencontre justement le président du jury. Du coup, j'ai mon court-métrage à ce moment-là qui est diffusé à Gaumont, Champs-Élysées. Donc je me dis, putain, c'est cool et tout, tu vois. Donc j'y vais. Et bref, donc il y a la cérémonie. À la fin, il y a les grands gagnants qui étaient les Parasites à l'époque.
Qui ont fait l'effondrement.
Ouais, c'est ça, exactement. Et moi, j'avais eu un prix pour une des meilleures réalisations, un truc comme ça.
Et c'était qui les membres du jury?
Justement, alors il y avait un acteur d'Hollywood, mais je ne sais pas qui c'est. Franchement, la vérité, tout le monde allait le voir. Moi, je ne sais pas qui c'est. Et il y avait surtout un mec qui était là, et c'était le réalisateur de La Cité de Dieu qui s'appelle Fernando Meirelles. Donc je vais le voir, on va parler. Et il me dit, ok, il me dit, mais toi, t'étais un concurrent. Et je dis, ouais, c'est moi qui ai réalisé ce court-métrage. Il me dit, ah, mais c'est toi et tout. Et il me dit, bah, j'ai kiffé, moi, j'ai voté pour toi. Je voulais que ce soit toi qui gagne, mais le prix final. Parce que t'avais une belle somme à gagner, tu vois, à l'époque. Et il me dit, bah, vas-y, franchement, t'as un vrai truc en réal, moi, je kiffe. Je te donne mon mail, envoie-moi ce que tu fais, tu vois. Et il m'a envoyé son mail. Et j'avais pas fait d'autre chose, donc du coup on a parlé, je lui avais montré un peu des petits courts-métrages. Si j'avais fait un petit court-métrage aussi avec un appareil photo qui était plutôt pas mal. Donc on a beaucoup parlé, il s'est même souvenu de moi, après il m'avait re-répondu et il m'a grave motivé. Et c'est à partir de là que j'ai dit, putain, mais en fait je veux, voilà, réal, je kiffe, tu vois, faut que je m'amuse, tu vois.
Donc là tu t'es dit que tu préférais être derrière la caméra que devant?
Non, je me suis dit, j'aime bien les deux.
Okay.
C'est ça le problème, tu vois. Je me suis dit, il faut que je fasse les deux, mais en tout cas, j'ai kiffé réaliser et je me suis vraiment dit, putain, je veux être réel aussi, tu vois.
Okay.
Et c'est là où on arrive après, en 2016.
Ton arc a déjà 3557 cordes.
Exactement, c'est une mandoline.
C'est une harpe.
C'est une harpe. Et du coup, en 2016, je me dis, vas-y, j'en ai marre. Je joue dans un truc de France 2 qui s'appelle Meurtra, où je joue le méchant du film, donc je kiffe aussi. Mais pareil, je me suis dit, putain, c'est cool, mais c'est rare d'avoir des bons rôles, tu vois, et tout. Et je dis, vas-y, faut que je fasse un truc à moi, en fait. Et vu qu'on commençait à avoir vraiment beaucoup de mecs qui faisaient de la fiction sur YouTube, je me dis, bah écoute, moi j'écrivais déjà pour certaines OP pour YouTube, tu vois, certaines OP commerciales pour YouTube pour mettre en avant. Bah, j'avais même écrit à l'époque pour La Técho, j'avais écrit pour aussi Mission Impossible.
Mais oui, faut dire qu'en fait, entre le moment où tu commences à passer des castings, etc., bah, YouTube est quand même explose en France.
C'est
et
ça.
En Europe. D'abord, il y a eu les Américains, mais je crois que c'est 2011, YouTube, ça devient genre un truc de fou.
Ouais.
Donc, t'es arrivé quand même assez, pas assez tard,
si, mais,
c'est au début.
Quand même tard par rapport à tout ce qu'il y avait, quoi. Je crois que...
Mais ça avait déjà bien commencé.
Ouais. Ouais, ça avait... Et puis, il y avait des grosses chaînes, tu vois. Et justement, moi, à l'époque, je dis, vas-y, c'est pas grave, je vais faire un truc que je kiffe. Ça prend, je m'en fous. En fait, j'ai dit, au final, je vais faire ce que j'aime. Et puis, si les gens aiment, bah, tant mieux, tu vois. S'ils aiment pas, je m'en fous, je vais faire ça. J'ai fait le pilote de... En fait.
Faut que tu racontes comment j'ai été castée, parce qu'en fait, c'est le... il n'y a pas de casting.
Il n'y a pas de casting du tout.
Ça a été ma plus belle fierté. C'est que j'ai pas du tout passé un casting. Non, mais du coup, ça veut dire que tu étais auteur. Si on refait juste vite fait le film, tu étais auteur. Alors, à l'époque, il y a une régie qui s'appelait Mixicom, donc, qui permettait aux petits créateurs de se lancer. Il y avait déjà Norman, Cyprien, Natou, Squeezie. Ouais. Ils avaient déjà décroché.
Le Whoop.
Ouais, le Whoop à l'époque. Ouais. Et donc, toi, tu étais dans le pool d'auteurs.
Ouais, nous, on était, en fait, j'étais avec Casa, on était indé, on était indépendant. Et nous, en fait, ils nous appelaient parce qu'ils n'avaient pas d'auteurs, vraiment d'auteurs attitrés. Et nous, on a dit, bah, nous, on sait écrire, tu vois, on savait écrire des vannes, on savait écrire des scénarios. On a dit, bah, vas-y. Et on écrivait des OP commerciales quand il y avait besoin, tu vois, parce qu'eux, à l'époque, il y avait beaucoup de. Ils travaillaient beaucoup avec la Paramount, justement, je me rappelle. Avec Warner, je crois aussi, et pour faire les promotions de films surtout.
Oui, c'est vrai que quand ça s'est professionnalisé sur les chaînes YouTube, bah, pour ceux qui ne comprennent pas très bien, c'est qu'il y avait des collaborations avec des marques, et des marques, ça pouvait être effectivement des Warner, des sorties de films, des produits, ça peut être un peu n'importe quoi. Et à l'époque, bah, il fallait quand même des auteurs pour écrire.
Oui, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup de la fiction qu'il y avait sur YouTube.
Oui,
en tout cas, c'était là-dessus
que
ça marchait.
Le mieux, ouais. Bien sûr, et même aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui valorise le mieux, mais du coup, bah, on faisait appel à des auteurs qui nous permettaient de faire des productions un peu folles, parce que bah, ça nous sortait complètement de ce qu'on faisait d'habitude. Nous, on était dans notre chambre à faire des facecam, donc il fallait quand même être bien accompagné pour faire des contenus qui étaient toujours plus cool.
C'est ça.
Et c'est là où Vincent arrivait en scène.
Ouais, c'est ça. Et donc j'étais auteur. Et après j'ai dit bah vas-y, j'en ai marre d'écrire pour les gens. Je vais écrire pour moi. Surtout que j'avais écrit des fois des trucs, c'est pas forcément réalisé comme je le pensais. Donc je m'étais dit bah autant que je fasse mes trucs pour moi, tu vois. Et j'ai créé un programme qui s'appelle En fait. Et en fait, donc c'est là où avec Léa on s'est rencontrés. En fait, on s'était déjà rencontrés un petit peu avant parce que j'avais écrit des trucs.
Moi je te connaissais pas en fait. Je connaissais Kaza qui était ton.
Ouais, c'est ça,
ton,
exactement.
Ton collègue.
Ah oui, non, on s'était pas rencontrés, non, c'est
non.
Ça.
Et ouais. Du coup, Kaza écrivait pour un groupe dans lequel j'étais qui s'appelait le Latte Show. Donc, quand on avait des trucs à écrire, des concepts, etc., c'était Kaza, notre directeur d'écriture. Et moi, je ne t'avais pas rencontré, je te connaissais de nom.
Ouais.
Et je crois qu'on se croisait de temps en temps vite fait dans les couloirs.
Je ne suis même pas sûr. Je sais que j'avais écrit un ou deux, je crois, de sketchs pour votre chaîne.
Ça ne m'a pas marqué. Non, mais on faisait tellement de trucs.
Ah ouais, mais forcément.
Mais non, on se connaissait pas et je crois qu'un jour tu m'as dit non, Kaza me dit je crois ouais. Que mon pote Vincent a un truc à te proposer et j'étais là ah ok mais quoi, en fait j'étais dans une période de ma vie où je me disais et qui pourrait bien avoir envie de me proposer, enfin non pas c'est pas ce que je veux dire, mais je faisais déjà mes trucs et je me disais mais qui aurait envie de me proposer un autre projet qui ressemble
ouais,
pas
moi
déjà
je t'avais vu dans un sketch que j'avais écrit qui s'appelait je sais plus comment d'ailleurs.
Ah mais je connais pas cette histoire, tu vois, c'était quoi comme sketch? Ah,
j'en avais écrit deux.
Du Latte
ouais.
Show.
Ouais ouais, du Latte Show, ouais. J'en avais écrit deux ou trois pour vous, je crois. Et il y en avait un et j'avais dit, ah, elle est bien Léa et ça. Je pense que ça pourrait grave matcher avec le programme que je fais.
Alors qu'à l'époque, je me trouvais vraiment,
ouais, je sais,
vraiment
tu m'avais dit. Bah, ouais.
Super mauvaise comédienne.
Et non, il y avait un truc naturel. Et moi, je savais en tout cas que je pouvais t'amener là où, tu vois, où je voulais. Tu vois,
Elle a l'air malléable.
Elle a
l'air docile.
Et du coup, ouais, je t'ai proposé. Bah, je me rappelle, on était autour de table. Je dis, salut, ça va? Je dis,
ouais.
Tu veux jouer dans la série? Je t'avais montré le pilote que j'avais fait.
Ouais.
Que j'avais fait dans la cuisine de ma mère avec un projecteur de chantier, avec ma mère qui m'aidait, qui me jetait une saucisse à un moment donné, qui me jetait un poulet, moi je tirais au fusil, elle tirait sur un fil, il y avait un nounours qui se barrait après. Après ouais, c'était il y avait du sang, il y avait un peu de tout, je crois que c'était.
Je pense que quand j'ai vu le pilote, je me suis dit ah c'était trop bien, mais ça allait si vite, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire moi, est-ce que je vais faire la saucisse? Luche, qu'est-ce que je vais faire dans ce truc? En fait, je trouvais ça trop génial et je me disais, mais il est fou, déjà, il est hyper actif. Et en plus, est-ce que je me mets dans tout ça? Et t'avais l'air tellement sûr de toi quand tu m'as proposé le projet
ouais.
Que je me suis dit, bah.
Surtout que moi, faut savoir que j'ai du mal à expliquer ce que j'ai dans ma tête quand c'est artistique.
Non, c'est terrible.
Ouais.
C'est dégueulasse. Enfin, vraiment, ouais. Le moment, je me suis dit, je sais pas si je fais du Almodovar ou du Vandamme, je sais pas.
Non, franchement, pour de vrai, j'ai du mal. Mais tout le temps, hein, quand j'ai un projet sur. En plus, c'est très conceptuel quand même. Je dis, ouais, t'inquiète, on va rentrer dans la tête des personnages, ça part en couille à un moment donné, ça fait ça. Et je faisais tout. Tu vois, j'étais plein d'onomatopées. Bah, du coup, non, elle m'a fait confiance.
Est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que c'était le concept de En fait?
Donc, en fait, c'était l'histoire d'un couple qui se rencontrait pour la première fois et on allait suivre l'évolution de ce couple-là, mais en rentrant dans la tête des personnages à chaque fois. C'était le moment, tu sais, de toujours face à un mal-être ou face à un mensonge ou face à un on dit, tu vois, on veut se protéger, on met des masques, etc. Et moi, j'avais envie de mettre en scène ce qu'on a dans la tête. Et je m'étais dit aussi comment je peux, juste par deux face cam, un champ contre champ, faire un film d'action, un dessin animé, une histoire d'amour, une comédie romantique, etc. Et en gros, quand on rentre dans la tête des personnages, et tout part en vrille et on a réellement ce que les personnages pensent à ce moment-là, l'un de l'autre. Et après, au fil du temps, parce qu'on a fait deux saisons, on a fait 40 épisodes, le couple s'aime, se connaît, et après, c'est même eux deux qui sont ensemble dans leur monde face à d'autres personnes. Et non, c'était génial, franchement.
J'aurais dû m'expliquer ça, hein, le jour où on s'est vu, j'aurais dit oui. Moi, j'ai dit oui aussi, mais j'ai dit oui quand même. Je pense que tu n'arrivais pas à mettre des mots dessus parce que c'était non. Pas encore.
Non, c'était pas. Ben non, je ne savais même pas comment ça allait évoluer. Hein,
c'était pas matériel.
Non, parce que moi, en fait, en plus, pour de vrai, j'ai tourné 4 épisodes, je me suis dit, bon, on verra, tu vois. Et en fait, au bout du 4e épisode, moi, faut savoir que je pars d'une chaîne qui avait 0 abonné. À l'époque, même, il y a d'autres youtubeurs me disent, franchement, c'est cool, mais je pense que si tu fais aller 5000 vues, ça va être cool, tu vois. Même si tu fais 40 000 vues, c'est que tu as un buzz, tu vois. Ils disent, c'est très dur en ce moment, il y a beaucoup de monde, personne ne te connaît sur Internet. Et en vrai, on a fait les 4 épisodes, je me rappelle, on les a postés le 13 octobre 2016, premier. Et après, on avait un tous les 15 jours.
Il faut savoir qu'on a tourné un peu. En mode, bah, tout le monde nous aidait, en fait, tous tes amis.
Ouais, c'est
aidé,
ça. Une équipe de ouf, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque des premiers épisodes, j'avais 700 balles pour les faire. Donc, en gros, tout le monde était payé 50 balles, tu vois, voire pas. Moi, je faisais tout. Je me rappelle, la première épisode qu'on a tourné, j'étais à un moment donné en caleçon, en train de faire le régisseur, en train d'acheter des trucs, en train de jouer, en train de dire action, en train de couper. Tu te rappelles de ça?
Oui, je m'en rappelle.
Les gens qui passaient dans un bar qu'un pote à moi m'avait prêté, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fout,
ce mec, en caleçon? Il va canner.
Ah ouais, j'avais perdu presque 10 kilos. Et en plus, juste cette semaine où on tournait, c'est une semaine où je déménageais en plus. Donc j'avais mon déménagement à faire en même temps. Ah ouais, j'étais au bout du rouleau. Mais au final, c'était cool parce qu'au bout du quatrième épisode, c'est là où on a fait 1 400 000 vues, je crois, en l'espace de même pas 3-4 jours.
Ah, ça allait très très vite.
Au début, ça faisait 8 000 vues. C'était des petites vues, quoi, ce qu'on m'avait dit. Et d'un coup, ça a pété. Et à partir de là, j'ai dit, bon, bah Léa, il faut qu'on tourne. Et on a tourné en flux tendu, non-stop, toutes les semaines quasiment.
Franchement, je sais pas comment t'as fait parce que moi, j'avais quand même la belle vie. Le tournage, et j'avais des fois le script un peu en amont, des fois 12 heures à l'avance. Uh-huh. Mais au moins, j'arrivais et j'avais plus qu'à faire ce que je devais faire. Que toi, je sentais qu'il y avait eu beaucoup de travail en amont, que tu avais fait et la régie et l'électricité, la clim, que tu avais cherché un endroit, que tu avais écrit surtout. Parce que...
Et j'avais monté l'autre, j'étais en train de monter l'autre avec
oui.
Théo.
Oui, parce qu'il y avait toute une équipe qui travaillait tout le temps.
En fait, Mélina, de fou aussi.
Oui, alors Mélina qui du coup était avec toi au Mobile Film Festival. Ouais, en fait, j'ai l'impression que Vincent, il a ramené tous ses copains, mais des vrais copains, ceux avec qui tu peux créer des choses et qui ont envie de bosser aussi.
Ouais, puis j'ai fait des rencontres comme Camille, comme Charles, comme Antoine, tout ça, tu vois. Même Théo, c'est des vraies rencontres de travail. Et aujourd'hui, on bosse. Moi, dès que j'ai quelque chose à réaliser, je suis avec eux. Dernièrement, là, j'ai réalisé un truc pour Amazon Prime. Bah, c'est mon équipe, elle vient avec moi, tu vois. Et on a créé une vraie famille avec, en fait. Pour de vrai, on a créé une vraie, vraie famille.
Je pense que c'est ce que je retiens le plus, c'est qu'il n'y a pas de meilleur environnement de travail que quand tout le monde est là pour la même chose et je t'ai jamais vu énervé ou triste ou saoulé. Bah après, c'est toujours des fois, c'est compliqué quand on a envie de mettre en image quelque chose qu'on a dans la tête.
Ouais.
Mais j'ai jamais senti une ambiance lourde ou quoi que ce soit.
Non,
sur
c'était
les
que tournages. D'équipe. Pourtant, j'étais vraiment. En plus, c'est drôle. Dernièrement, j'ai allumé une caméra que ma fille avait. Oui, parce que j'ai une fille. Qui joue dans la série à un moment donné. Elle me filmait pendant que je bossais, je me rappelle, à un moment donné, je suis au téléphone avec toi, je suis au téléphone avec Mélina, et je m'aperçois que, à un moment donné, je crois que je suis au téléphone pendant plus d'une heure, j'ai le temps de faire un aller-retour, revenir cuisiner, me préparer, manger avec ma fille, ça, je suis toujours au téléphone, c'était ça tout le temps, en fait. Parce qu'en fait, on tournait, par exemple, le lundi, le lendemain, je faisais tout le rapport monteur, on montait, en même temps, je devais écrire le nouvel épisode qu'on tournait la semaine d'après pour pouvoir sortir l'autre dans 15 jours, et ça a été comme ça pendant un an.
Pendant un an et après on est
et après en Belgique. C'est ça. Et après j'ai eu la chance d'être contacté au bout de 5 mois par la télé, par le groupe Énergie 12, pour dire on kiffe le programme. En fait c'est un mec qui nous suivait.
Ça c'était fou quand même parce que nous on était dans notre coin sur YouTube quoi.
Avant de lancer ce programme j'avais dit à Casa tu verras, je pose ce programme là, dans un an je le mets en télé.
Ouais c'est vrai.
Je me rappelle. Et
toi, tu m'avais dit que c'était le but au final.
Ouais, c'est ça, exactement. Et, et tout le monde, même Camille qui me dit ouais, mais le nombre de mecs qui me disaient ça, moi, on avait dit ouais. Et en fait, ouais, je l'ai fait, tu vois, donc c'est une fierté. Et du coup, Énergie 12 m'appelle pour me dire on aimerait bien faire la saison 2 avec toi. Et du coup, on a fait la saison 2 sur Énergie 12.
Alors, faut dire que, franchement.
Et sur YouTube aussi.
On n'y croyait pas parce que quand il m'a dit ça part en télé, ça part sur Énergie 12. Et à cette période-là, Énergie 12, c'était très axé télé-réalité.
Ouais.
Et nous, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et on a été invités dans l'émission qui passait juste avant Les Anges.
Le
Mad Mag.
C'était incroyable.
Qui passait juste avant Les Anges. Donc, parce que Énergie avait fait une grosse réunion. Où il présentait, c'était la rentrée en fait, où il présentait tout ce qu'il allait avoir sur la chaîne.
On a fait la communiqué de presse, tout ça.
On a fait une espèce.
On est encore en photo sur Google.
Tu tapes Léa Camiri, Vincent Scalera, je pense que tu as la plus belle photo de nous.
Énergie
12. Et c'était trop fou pour nous, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'était trop bien, et d'un autre côté, on se disait, c'est l'inconnu total.
Ouais. Et moi, sur ça, ce projet, je devais écrire avec mes gars. J'avais pris mes potes pour écrire parce que la saison 1, j'ai quasiment écrit tout. J'écris quasiment tout seul.
Il n'y avait pas beaucoup plus de budget au final?
Pas beaucoup. Enfin, il y avait plus de budget, mais en fait, tu dois payer réellement les gens.
Ouais.
Donc, du coup, on était autant dans la merde. Mais, et du coup, moi, j'étais producteur. Je devais produire, je devais écrire, je devais réaliser, je devais jouer, et je devais faire le montage et trouver des compléments financiers, des placements de produits pour pouvoir payer les gens, tu vois. Et on a tourné, 1 ou 2 mois, je crois.
Je crois qu'on est resté presque 2 mois en Belgique.
Ouais, c'est ça, on a tourné en Belgique parce que j'avais trouvé de l'argent en Belgique. Enfin, voilà. Et je dormais 2 heures par nuit.
Ouais. En fait, quand tu dormais pas, je t'entendais faire du sport. On habitait dans un hôtel.
Ah oui, c'est vrai.
Et je l'entendais faire du sport à côté de moi, alors que moi, j'étais en PLS. Alors que vraiment, je vous le jure, moi, j'arrivais juste sur le set, j'apprenais mon texte et j'avais juste à jouer. Lui, il faisait tout et il arrivait quand même à faire du sport, alors que moi, j'étais en mode, je vais mourir.
Ouais. Et la nuit, je montais avec Théo, quoi. On s'échangeait, je faisais les retours, tout ça.
Je sais pas comment t'as fait à cette période. Parce que...
Bah, je sais que quand je suis rentré chez moi, j'avais l'épaule qui marchait plus.
Ouais. Bah oui, c'est vrai.
Et j'ai fini avec 20 tensions. J'avais un tensiomètre. Ouais. Parce que ouais, j'étais au bout.
T'étais au bout, mais par contre, sur le moment, c'était trop bien.
C'était un kiff. Non, mais toutes ces 2 années, franchement, artistiquement, ça a été les 2 meilleures années pour moi. J'ai kiffé.
Je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie.
Et avec l'équipe, tu sais que des fois, ça manque. Je me dis, putain, franchement, c'est quoi mieux organisé, tu vois, mais en mode, tu sais, en mode la famille, tu vois, c'était cool.
Oui, je pense que tu aurais aimé changer des trucs d'organisation, mais au final, c'est ça qui fait que la série, elle est ce qu'elle est. Et moi, je suis trop content de m'être retrouvée dans un truc qui était mais à l'opposé de ce que je faisais sur ma chaîne.
Ouais.
Et surtout, moi, j'étais seule. J'étais pas avec toute une équipe et de gens qui sont là pour que tu fasses le truc le plus cool possible. Ouais. Donc, je trouvais ça, je trouvais ça trop cool d'être incluse dans un projet comme celui-là.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc après, en fait, parce que du coup, on a fait la première saison en France, la deuxième saison en Belgique. Est-ce que ça marche toujours autant ?
Ouais, franchement, ça fonctionne bien. C'est juste qu'après, moi, je voulais faire... j'avais dit, je fais saison 1, saison 2 et un film, ou saison 1, saison 2, saison 3 et un film. Sauf que saison 3, il n'y a plus d'argent pour le faire. On est tous épuisés. La saison 2, elle nous a anéanti physiquement. Moi, vraiment, j'en peux plus.
Moi, j'ai fait un burn-out après la saison 2.
Ah ouais, moi, j'étais en mode pas bien du tout non plus. J'ai dit, vas-y, il faut que je me repose vraiment. Je me suis reposé 3-4 mois, toujours avec des idées de films, de concepts et tout. Après, j'ai refait des choses sur ma chaîne, en mode un peu plus cool, détente. Tu vois, j'ai réalisé aussi pour Jérémy Nadeau une vidéo qui s'appelle Grandir en Cité 2. Tu vois, je faisais des trucs un peu plus...
Mais tu continues
J'étais un
chaîne,
peu plus
quoi.
Cool, tu vois. Ouais, je continue un peu ma chaîne. Après, avec mes potes, on a fait Blablou, saison 2. En même temps, je faisais aussi, en même temps qu'en fait, j'avais fait Blablou aussi.
J'avais joué dedans, mais si vous allez, franchement, si vous voulez rire, allez sur Blablou.
Ouais, c'est très
ça
drôle.
Ça passe tout seul.
c'est cool, c'est une autre série. Donc Blablou, après je fais Blablou saison 2 que je mets sur ma chaîne. Et après, il y a Covid, donc on est tous enfermés. Et juste avant le Covid, il y a Netflix qui était chaud pour faire, d'ailleurs je te le dis, je n'étais même pas au courant, qui était chaud pour faire le film En Fête à l'époque.
Ah, ouais. Et ben, écoutez, on est là à faire un podcast, hein, on n'est pas sur Netflix. Hein.
Et du coup, après le Covid...
Ah bon, mais du coup, pourquoi?
Bah, moi, j'ai essayé de vendre le film parce que c'était vraiment le projet, quoi, j'avais dit. Et Netflix avait dit oui. Après le Covid, ça a changé d'équipe et ils ont changé de direction. Ils ont dit, nous, on ne veut plus faire ça.
On ne veut plus de vous.
Voilà. Et moi, entre-temps, j'avais écrit un autre film aussi. Un film que j'avais envie de défendre, en tout cas en tant que réalisateur. Et du coup, je me suis concentré pendant 2 ans là-dessus. Et voilà, j'ai recréé une série avec Kaza et Jérémy Nadeau qui s'appelle Frère. Saison 1, saison 2. Je l'ai produit et je joue dedans. Pour le coup, j'étais juste producteur, auteur et comédien.
Juste.
Donc, c'était cool. C'était cool.
T'es pas cordonnier, perchiste.
Non. Et j'ai réalisé un rêve de gamin en 2020. J'ai rencontré un agent qui est devenu mon agent, en tout cas au Festival de La Rochelle. Et il s'avérait que c'était l'agent de Jean-Claude Van Damme. Donc, comme quoi,
J'allais te demander parce que du coup, pour moi, c'est trop le fil rouge.
Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est rencontrés. Et moi, j'étais pas en mode fan, j'étais en mode tranquille, tu vois, on a mangé ensemble.
En fait, on parlait vachement beaucoup quand même. Hein. C'est une discussion qui revenait souvent. Genre, Jean-Claude Van Damme, même si c'était pour rigoler.
Ah non, mais moi, c'était vraiment le mec qui me donnait envie de faire ça, tu vois, quand j'étais gamin. Mais quand j'étais en face de lui, je me suis pas mis en mode groupie ni rien, tu vois.
Oui.
Je me suis dit, ben non, j'ai le recul, j'ai vécu, tu vois.
J'ai de la bouteille.
Et j'ai mangé, je me rappelle, il y avait le chanteur Dev, il y avait Jean-Claude Van Damme, il y avait. Je sais plus. Je ne me rappelle plus, il y avait des gens connus aussi.
On dirait le début d'une blague, il y avait le chanteur Dave.
Et Van Damme, je me rappelle, il est au fond comme ça, il me regarde, il me dit, ah, toi, tu ne parles pas beaucoup, j'aime bien, ça veut dire que tu réfléchis. Et il se pose à côté de moi, il me dit, mais c'est toi qui es sur YouTube. Je dis, ouais, il me dit, ah, mais ça. Et donc, hyper intéressant, conversation vraiment géniale sur plein de choses. Je dis, putain, je ne suis pas déçu, tu vois, du mec. Et après, il voit la vidéo sur ma vie. Parce qu'en fait, c'est que je lui dis, ouais, bah, je fais une vidéo sur ma vie, je raconte un peu mon projet, je parle de toi dedans, est-ce que tu veux bien que on fait un petit délire ensemble. Il me dit, ouais, vas-y, vas-y, viens et tout.
Après, elle avait déjà été tournée ou...
Non, elle était déjà écrite. Okay. Je l'avais pas tournée et je lui dis, je vais faire ça. Il me dit, vas-y, vas-y. Et on fait une petite story, tu vois, que je garde, que je mets pas sur les réseaux et que vous pourrez retrouver en payoff à la fin pour ceux qui vont jusqu'à la fin de la vidéo Ready ses rêves. Et là, on sympathise de fou. Et bref, et quelques temps après, je réalise un second rêve. C'est que je joue dans un de ses films, mais c'est même pas lui qui m'a placé quoi que ce soit. Je passe un casting dans le prochain film de Van Damme qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle toujours d'ailleurs Le Dernier Mercenaire. Donc moi, je joue un petit rôle dedans et c'était cool. Je suis parti en Ukraine avec lui, avec les gars.
C'est fou comme tout s'enchaîne hyper vite.
Ouais, ça c'était en 2020. C'est tout en 2020. Et je sors ma vidéo Réaliser ses rêves aussi. Et quand il la voit, parce qu'il la voit beaucoup plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard. Et il m'appelle, il me dit, c'est génial ta vidéo, je l'ai montré à ma fille, je l'ai montré à mon fils, et je l'ai montré même à Stallone. Il me dit, c'est trop cool, il me dit, viens à mon hôtel, je suis à Paris, viens, on va parler de ça. Et on a passé 4 heures à parler de sa vie, de ça. Il m'a dit, il faut qu'on fasse un projet ensemble. Voilà, il m'a dit des choses, après, bon, je ne peux pas forcément dire, mais en gros, il voulait qu'on fasse vraiment un projet ensemble. Après,
mais il t'a adoré, quoi. Il a trouvé ce que
Ouais, vraiment. Mais après, il m'appelait. Des fois, il m'appelait.
Même humainement, ça a matché.
Ouais, ça a matché vraiment de fou. J'avais tout le temps à 5h du matin, je recevais des messages. Ouais, je suis à Hong Kong, rappelle-moi. Ouais, je suis à.
Ça me bute parce que vraiment, tu m'en as tellement parlé avant que je me dis, mais c'est le destin, quoi.
Du coup, bon, après, la vie s'enchaîne, fait les choses aussi. Puis lui, il est très pris. C'est un électron libre de fou. Du coup, il fait 1000 projets à la seconde. Donc, écoute, pour l'instant, on n'a pas fait autre chose ensemble. On verra bien. Mais en tout cas, moi, j'avance dans ma vie. En tout cas, j'ai réalisé un rêve de gosse, tu vois, c'est cool.
Et puis, il n'est pas loin. Il est encore plus près que quand tu étais jeune.
Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, moi, ça fait... maintenant, j'essaie de me concentrer sur mon film.
Attends, mais t'as sauté une étape. Ouais, c'est que t'as joué dans un film de Clapiche.
Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais.
Parce que moi, il ne m'avait pas prévenu. Et je ne sais plus si t'en parles ou si je le vois directement sur un bus. Je vois l'affiche du film. Et je ne sais plus, tu n'en as pas dans une...
Il y a mon nom sur l'affiche. Quoi, mon nom en bas peut-être. Et moi, j'en ai parlé dans Réaliser ses rêves, je l'ai dit, je crois.
Mais c'est une conversation qu'on n'avait pas eue. Du coup, je me dis, attends, il y a Vincent dans le dernier Clapiche.
Ouais, je joue le frère de François Civil. Mais tu sais que je n'avais même pas dit à ma mère, je n'avais même pas dit à Casa à l'époque. Il me dit, mais t'as réussi le casting. Je dis, ouais, il me dit, mais putain, mais faut le dire et tout. Tu vois.
Mais ouais, c'est trop bizarre que je sais pas, tu nous aies pas tous appelés.
Parce qu'en fait, moi, quand j'ai des rôles, tant que c'est pas un gros rôle,
mais c'est trop stylé.
Je sais. Après, en tout cas, c'est ce que tout le monde dit, mais j'ai pas ce truc de dire, ouais, je suis pris, tu vois, ouais, je suis content de fou, hein. Attention, mais j'ai ce recul à dire, ouais, mais en fait, c'est pas un rôle principal, tu vois.
On fera péter le champagne que si t'as un rôle principal, alors.
Bah ouais, tu vois, ou le jour où je fais vraiment mon film. Et ouais, j'ai joué dans un film de Clapiche qui s'appelle Deux mois, qui est très très bien. Et Clapiche, wow, c'était un truc de fou. On a sympathisé avec Cédric et avec François aussi. C'était cool, on a tourné en Savoie. Non, trop bien. Vraiment des super humains. J'ai rarement vu ça. Pour de vrai, sur un tournage...
Pour un casting, avant, on te proposait toujours des rôles d'action et tout. Là, ça change.
Ouais, totalement. Totalement. C'était improbable. Je suis passé de ça. Ouais, j'ai fait Clapiche avant le Vandame. Et après, j'ai fait Vandame. Où joue l'inspecteur Colbert. Après, ils ont pas mal coupé les scènes, donc ma scène, elle est petite, mais c'était cool.
J'ouvre une porte, et dis Jean-Louis.
Non, je pars bien en
vrai. Tiens, ton gun.
C'était cool.
C'était en anglais ?
Non, c'était en français. Ah. Ouais. C'était en français, on a tourné en Ukraine. Et... belle expérience. Franchement, belle expérience de fou. Et après ça, donc on a fait la série Frères. C'est un peu tout mélangé, mais en gros, ça va se réguler là. J'ai fait la série Frères avec Jérémy et Casa. On est en pleine promo. Et là, il s'est passé un truc de fou. C'est que j'ai eu une autre révélation dans ma vie. C'est que Jérémy était invité dans une émission qui s'appelle Autour d'eux, une émission de stand-up. Donc, c'était autour de Jérémy Nadeau, où Jérémy fait du stand-up. Il doit inviter d'autres stand-uppers.
C'était sur Internet,
Slash.
Sur France TV,
ouais.
Télé-Slash.
Ouais,
je sais plus parler. France TV Slash.
C'est ça. Et le tournage était le lundi et il m'appelle avec Casa et Soleil aussi et Jérémy pour me dire ouais, il nous manque un humoriste, est-ce que tu peux venir en mode comme dans la série Frères, tu viens foutre un peu le bazar dans l'émission en mode ça fera rire les gens ils vont kiffer te voir en happening et tout ça. Et je dis vas-y, ok, mais je fais pas de stand-up. Il me dit non, t'inquiète et tout, et bref, donc j'y vais et on commence à chauffer
Le non, t'inquiète, est super important.
Ouais, 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 c'est ça. Et quand j'arrive là-bas, j'ai mon pote Solé qui me dit, vas-y, franchement, tu devrais... je suis sûr que tu vas faire un passage et tout. Je dis, non, je ne suis pas passage, il n'y a que des scènes de peur. Moi, je fais rien du tout, juste je fais le con. Et après, je commence à me chauffer, Kaza, il me chauffe aussi. Et bref, et j'arrive sur le plateau en pleine émission. Donc, tu as les caméras, tu as le public, tout ça. Jérémy, il fait un passage. Et moi, je devais arriver en disant, ouais, tu ne m'as pas invité, comment ça se fait, tout ça. Et les gens, quand ils me voient, ils rigolent.
C'est ta tête, peut-être.
Ouais, sûrement, tu vois, j'aurais une tête drôle. Et je commence à me chauffer avec Jérémy, on commence à faire une impro. Les gens rigolent beaucoup. Et je dis, mais c'est bon, moi j'ai une bouteille d'eau à micro, je peux faire du stand-up, hein, tu parles. Il me dit, ah, tu veux faire du stand-up? Et les gens disent, oui. Et je me chauffe et je fais 6 minutes d'impro.
Et tu parles de quoi?
Je parle de. Il y avait un sujet, je crois que c'était la peur ou je sais pas quoi. Je dis, moi je peux parler de muscu. Du coup, je commence à parler de muscu.
Il a encore choisi son sujet, c'est comme le bac, ça.
Ouais, c'est ça, je commence à parler de muscu, de ma meuf. Je sais plus, il y a plein de trucs, tu vois. Et ça marche super bien. Et à la fin, à la fin de l'émission, il y a plein de stand-upers qui viennent nous voir. Ils me disent, franchement, t'as un vrai personnage, tu devrais écrire et faire des 5 minutes, tu vois. Et je dis, vas-y, je vais me chauffer, tu vois. Donc,
en fait, t'es un yes man, tu dis oui à tout.
ouais.
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
Yes.
Yes. Du coup, je me chauffe, et j'écris un 5 minutes et je vais sur Instagram. Et je me rappelle, je suis au bureau à l'époque avec Kaza et je dis, yo les potes, je vais faire du stand-up, je vais essayer de trouver des salles, je vous dirai, vous viendrez me voir, tu vois. Et un jour après, il y a Boon Aymin qui m'appelle et qui me dit, si tu veux, viens, tu fais ma première partie. Et je dis, ouais, mais frérot, je suis pas stand-upper, tu vois.
Boon Aymin, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est quand même un sacré stand-upper.
C'est un gros stand-upper.
Qui tourne beaucoup et qui...
Il tourne de partout, ouais. C'est
hyper incisif. Et soit on aime, soit on n'aime pas. Mais en tout cas, quand il joue, il faut qu'il y ait des premières parties costauds, quoi.
Ouais, c'est ça. Et je lui dis, ah, mais vas-y, c'est chaud. Il me dit, on s'en fout. Moi, tu vois si t'aimes ou pas, tu vois. Et je dis, ok, c'est quand même. Il me dit, demain. Je dis, bon...
T'envoies au casse-pipe un peu, quand même.
Ouais. Et du coup, j'y vais. Je mange pas. Bah, pendant 24 heures, je mange pas. Je dors pas. Je suis pas bien. Et je fais 12 minutes sur scène au lieu de 5 parce que j'ai pas du tout le timing, tu vois, dans tête. Tu vois, je connais pas.
C'est ça, les premières parties, c'est 5 minutes?
Ouais, c'est entre 5 et 7, okay. Tu vois. Moi, je fais 12 minutes.
Dans quelle salle?
À l'Européen, devant 400 personnes.
Ouais, faut imaginer plein. Que ouais, moi, j'y suis plein. Déjà allé. C'est quand même, c'est grand, quand même.
Ouais, ouais. Et le comble, c'est que l'Européen, c'est là où j'avais fait la première émission avec Jérémy. Donc, c'est drôle, j'ai dit, il y a un truc avec ce théâtre, tu vois. Et ça marche super bien. Et à partir de là, je dis, putain, je vais faire du stand-up. Et là, maintenant, depuis, je fais du stand-up, tu vois.
Mais attends, c'est quand même fou que du coup, ton rêve de gamin, c'était d'être comédien, genre fort, que tu y es arrivé, mais que c'était toujours pas suffisant. Et que du coup, maintenant, tu fais du stand-up. Moi, je trouve ça incroyable et je trouve ça incroyablement cool, surtout.
Ouais. Et ouais, franchement, mais en fait, je prends du plaisir. Alors, c'est dur parce que des fois, les gens, ils rigolent pas. Des fois, ils rigolent, tu vois. Et en fait, c'est que j'ai l'impression que l'univers, il m'a mis sur un truc où... Parce que moi, je m'en foutais du stand-up, tu vois, je connais même pas...
Je crois pas d'en avoir déjà entendu parler.
Mais non, jamais, moi, ça m'intéressait pas du tout, enfin, de...
Bah, t'aimes bien les sketchs, quoi.
Mais, ouais, mais même pas, regarder. Je regardais pas. Moi, je regardais Jamel Debbouze et Gad Elmaleh, tu vois, c'est à l'époque, mais c'est... Et encore, c'était presque du one man, tu vois. Et là, j'ai vraiment une révélation, et du coup, quand ça marche bien, je prends un tel plaisir que je me dis, putain... Et du coup, là, j'ai décidé... En tout cas, peut-être que je vais l'annoncer, quoi, je vais l'annoncer sur ma chaîne. Et là, j'ai décidé que dans un an, je me lance un challenge, c'est que je dois faire mon spectacle. Voilà. Dans un an, je fais mon spectacle. Et dans un an, je dois signer avec un producteur et faire mon film. Donc ça, c'est ce que je vais annoncer sur ma chaîne à la rentrée.
Moi, je pense que ça va le faire. Mais rendez-vous, du coup, dans un an pour voir.
Bah, ouais, j'aimerais bien. Ouais. En fait, j'ai toujours dit, je rêverais d'être une rockstar parce que j'ai envie de la foule, tu vois, de l'énergie. Sauf que je sais pas chanter. Tu vois, je chante comme une merde.
Mais tu peux prendre des cours de chant?
Ouais, non. Moi, vraiment, je crois que j'ai pas le rythme, j'ai pas le truc. Tu m'as vu, hein. Je peux pas.
Tu dis ça, mais t'as eu tellement de carrière dans ta carrière du coup, rien n'est impossible.
Ouais, c'est ça. Mais je me dis, stand-up, il y a un truc, donc être près du public avec ça, c'est cool, tu vois.
Quel serait le next goal ultime dans la vie? Après le stand-up,
c'est en ce moment, en tout cas, j'ai envie de retourner vraiment sur l'acting, tu vois, la réal aussi, mais je suis plus sur l'acting. Et là, je me suis mis un nouveau challenge, c'est d'être bilingue aussi, vraiment vraiment de bien parler anglais pour...
Est-ce
pouvoir
qu'il serait
passer
pas un
des
peu
castings pour pouvoir passer vraiment des castings anglais, parce que là mon agent m'a proposé un casting pour jouer avec la fille de Johnny Depp dans un gros film indé. Elle m'a dit, t'es bilingue? Je dis non, mais on va le faire, tu vois. Et du coup, là, j'ai passé un casting en anglais. c'était cool. J'ai galéré pendant une semaine, 8 heures par jour avec mon pote qui me coachait. Et c'est cool, et du coup, j'ai grave progressé. Je me suis dit, putain, mais attends, c'est génial, tu vois. Et ouais, j'aimerais bien passer les castings en anglais, tu vois. Donc je pense que peut-être après ça, je me dirais, vas-y, maintenant, mon but, ça va être d'aller jouer à l'étranger, tu vois. C'est de kiffer, on verra.
Merci Vincent, et merci de nous avoir déroulé.
Ah ouais, j'ai fait au plus vite.
Mais non, mais il fallait pas faire vite.
En plus, je dois partir jouer, là, c'est vrai que je suis en retard.
Allez, ouais. C'est bon. Parti. Allez. Au revoir.
Au revoir tout le monde, ciao.
Merci à Vincent d'avoir partagé son histoire au coin du feu. J'espère que comme moi, cette écoute vous donnera envie de poursuivre vos rêves et d'écouter ce que vos cœurs vous chuchotent de faire. Merci à Pélib de nous avoir permis de réaliser cet épisode. Pour découvrir Pélib et préserver vos amitiés, rendez-vous dans votre application bancaire et vous trouverez en description toutes les infos pour télécharger l'application en un clic. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un petit mot doux, en vous abonnant à mon super Instagram, @RaccoonClubPodcast, et surtout en partageant cet épisode s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.